Dans quelques instants, vous allez pouvoir suivre une famille bayonnaise au Moyen-Âge, les Bielles, une conférence de Cécile Lebeau enregistrée le 12 mars 2026 au Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne. Tirée de son travail de recherche, Cécile Lebeau, spécialiste de l'histoire médiévale, retrace l'histoire de cette lignée sur près de 3 siècles. À travers le parcours des Bielles, c'est toute la vie bayonnaise de la fin du Moyen-Âge qui se dévoile. Jeu de pouvoir, rivalité entre élites, stratégie familiale et réseau marchand. Une famille bayonnaise au Moyen-Âge, les Bielles. Nous écoutons Cécile Lebeau.
Bonjour à tous, je vous remercie d'être venus aussi nombreux pour m'écouter. Alors moi, ça me fait tout drôle parce que j'ai passé du coup 2 ans centré dans mon petit bureau à étudier toutes ces personnalités qu'on va découvrir ensemble. Et je suis très contente de voir que ça suscite votre curiosité, que ça vous intéresse. C'est très plaisant pour moi. Donc je vais vous parler d'un sujet en soi qui m'a passionnée, qui a été le sujet de mon master de recherche, que j'ai centré sur la famille de Bielles. Une famille de l'élite bourgeoise bayonnaise à l'époque du Moyen-Âge, entre le XIIIe et XVe siècle. J'enlève mes bijoux, ça va faire du bruit. Donc, c'est une lignée incontournable quand on s'intéresse à l'histoire de la ville et qui domine les sphères politiques de la ville pendant une longue période, donc pendant 3 siècles au moins. Bayonnaise de naissance, j'ai été toute ma vie assez curieuse de l'histoire de la ville et très émerveillée par tout le patrimoine local ancien. Et c'est avec cette ambition-là que je me suis orientée à la fin de ma licence vers un master de recherche. Et spécifiquement, je tenais justement à aller chercher, aller fouiller les archives médiévales de la ville pour essayer de valoriser cette époque que je trouve encore méconnue, en tout cas sur Bayonne. Il y a plein de choses encore à dire et je trouve ça passionnant. Voilà. Donc, je me rappelle déjà de ma première visite aux archives municipales. J'avais emprunté le livre des établissements, qui est donc le cartulaire qui renferme tous les actes de la mairie, donc sur beaucoup d'époques pour le coup. Et en parcourant ces pages, donc j'étais très impressionnée. Et je regardais du coup les noms qui figurent dans la liste, liste de ces personnalités, de ces agents du gouvernement urbain qui œuvrent pour la ville. Et parmi ces noms, il y avait les Bielles qui revenaient très 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 souvent. Au point où ça commençait à me questionner, parce qu'effectivement, ils sont connus dans l'historiographie comme une longue lignée de maires, comme ayant porté beaucoup de maires bayonnais, mais effectivement, ils étaient très très souvent cités. Et je me disais, tiens, j'ai jamais vu pourtant la rue Bielles, une plaque commémorative, ça ne me dit rien. Bon, étonnant. Puis du coup, de fil en aiguille, je me suis intéressée à cette famille pour essayer de comprendre au-delà de... D'accord, elle a été maire beaucoup, elle a été très impliquée dans la ville, mais quelle est son histoire à cette lignée-là et qu'est-ce qu'elle a fait pour se maintenir aussi durablement sur la ville, dans l'élite? Voilà, donc c'est ce vide que j'entends combler aujourd'hui en reprenant leur trajectoire, puisqu'en soi c'est un peu le miroir de ce qui se passe chez les élites bayonnaises à l'époque, mais c'est surtout en soi le modèle le plus parfait, puisqu'ils ont, il n'y a aucune famille qui a réussi à atteindre leur niveau de monopole sur la mairie. Donc pour revenir un petit peu sur Bayonne, alors je suis habituée d'habitude à faire des présentations dans des villes qui ne connaissent pas Bayonne, donc là c'est plaisant, au moins vous savez de quoi on parle. Donc c'est une ville qui est née de l'installation romaine et son essor vient de sa position géographique. À quelques kilomètres de l'Atlantique, elle est située au pied des Pyrénées, à la confluence donc de la Dour, de la Nive, sur un axe routier majeur entre la Castille et Bordeaux. Elle est à la fois la capitale du Labourg et d'une partie de la Gascogne. Donc en soi, elle vit de toutes les régions qui l'environnent et elle vend le sel, le vin, la laine, le poisson. Elle tient vraiment sa richesse de sa région. Donc son histoire, elle est celle de son port, à la fois fluvial et maritime. Le nom même de la ville le dit, Bayona, c'est Ibayona en euskara, donc le bon fleuve, la bonne rivière. On a une reconnaissance envers justement ce fleuve qui vient irriguer la ville, mais aussi toute l'économie environnante. C'est la Dour qui fait sa richesse, mais aussi son drame, puisque aujourd'hui, effectivement, il coule à. L'embouchure est à Anglette, mais c'est une modification en soi assez récente. Ça date du XVIe siècle et de l'intervention de Louis de Foix. Avant ça, elle a un cours qui est mal connu, mal documenté. Elle passe dans les Landes, donc au gré des mouvements des sables et des dunes. Ce qui fait que, effectivement, pour vous donner une idée, au XIIe siècle, l'embouchure pour rejoindre la mer, on y va à Cap-Breton. donc à 18 km de Bayonne. Dans les années 1380, il faut reboucher jusqu'au Vieux Boucau, 32 km plus loin, ce qui change quand même considérablement les choses quand on vit du commerce. Cette variation donc, menace le commerce et pousse les élites locales justement à se poser la question de comment on peut réussir à contrôler la Dour face aux ports rivaux donc, et concurrents comme justement ceux de Gosse ou de Marraine, de ces régions-là environnantes. Donc l'essor de la ville de Bayonne, qui va en soi ramener beaucoup de monde, démarre avec la charte de franchise qui est accordée par le duc d'Aquitaine. Je ne rentre pas dans les détails, mais qui accorde aux habitants des droits spéciaux, mais encore une fois bien tournés vers le commerce, l'échange, la pêche, affranchissement sur la pêche notamment, et donc une autonomie communale. De là vont naître de nouveaux quartiers, donc en dehors des remparts romains, donc, qui était plutôt le Grand Bayonne. Donc va justement se construire le Petit Bayonne, Saint-Esprit qu'on va progressivement relier à la ville, etc. Donc des nouveaux quartiers qui vont pouvoir accueillir aussi toute la masse de population qui vient s'installer à Bayonne. Donc de nouveaux quartiers naissent et ils sont peuplés de Gascons qui viennent justement de ces villes environnantes, pays de Gosse, qu'on a mis, Seignance, Marraine, de Dax ou encore du long de la Dour. Toutes les noms en fait des élites qui apparaissent dans le livre des établissements, mais de façon générale les cartulaires locaux, leur nom il indique bien qu'ils viennent, indique leur origine. Les de Poyanne, de Sobagnac, ça indique une provenance, donc un lieu. Et donc, il s'exprime en gascon, qui est véritablement la langue d'expression de cette autorité. Et le basque restant très minoritaire, et vraiment, quand on parle d'un basque, c'est plutôt d'une personne dans une localité un peu reculée. À Bayonne, c'est vraiment le gascon. Donc, tout bascule en soi, ça ne charge pas, c'est pas grave. Tout bascule en soi quand Aliénor d'Aquitaine, elle est l'héritière du duché d'Aquitaine. Et elle amène à son mariage, quand elle se marie avec Louis VII de France, elle amène le duché en dot. Donc ce qui est considérable, ce qui est très intéressant pour le roi de France. Mais en 1252, elle annule son mariage et épouse Henri, qui jusque-là est duc et comte. Mais quelques années plus tard, il devient Henri II d'Angleterre, ce qui change radicalement la chose. Donc effectivement, comme on le sait, le Moyen-Âge est une période de vassalité. Donc en tant que duché, les villes de ce duché, elles vont dépendre donc du dominium du seigneur, et en l'occurrence donc du roi-duc. Donc avec cette union, Bayonne passe sous domination anglaise pendant 3 siècles, dans laquelle elle va vraiment fleurir, et donc avec les privilèges qui découlent de ce passage anglais, mais aussi les tensions permanentes qui vont s'installer avec la France et qui vont se maintenir sur toute la période. Donc c'est dans ce contexte que les élites modernes donc, vont émerger. Donc ce mot « élite », il vient du latin « eligere », donc c'est l'idée de choisir, sélectionner. En soi, c'est une minorité qui se hisse au sommet par soit sa naissance, le sang, la richesse ou encore son mérite, par exemple. Jusqu'au XIIIe siècle, dans ces villes, ce sont des nobles locaux ou des clercs qui, justement, tiennent justement leur rang de leur sang ou de leur propriété qui dominent. Ils contrôlent les terres, les remparts, les privilèges par le sang et les liens féodaux. En soi, le travail, c'est incompatible avec ce mode-là. Mais au bas Moyen-Âge, cette définition évolue. Elle évolue drastiquement. Les grands marchands, juristes et officiers royaux prennent de la place et donc prennent du pouvoir. La vraie rupture étant que les bourgeois travaillent. Donc, ils s'enrichissent par leur entreprise. Le commerce des transpyrénéens, la gestion des navires, le prêt d'argent, ils constituent une fortune et donc doivent leur nom à leur fortune, à leur activité, mais pas à leurs ancêtres. La prospérité commerciale des bourgeois, elle constitue le fondement de leur ascension sociale et de leur intégration au sein de ces élites urbaines. Donc elle s'amalgame progressivement, cette bourgeoisie, à la noblesse traditionnelle, donnant naissance donc à une aristocratie bourgeoise, donc qui va venir justement irriguer la ville. Et la légitimité de cette nouvelle classe dirigeante, elle repose sur 2 piliers, que sont donc... D'une part, donc, le prestige qui est conféré par leur richesse et le statut constitutionnel d'une d'autre part. Donc cette double assise juridique et économique, elle les rend inattaquables. Ils ont autant de place que les autres sur ce point. Et donc l'émergence de cette bourgeoisie marque une transformation profonde des dynamiques de pouvoir au sein de la société urbaine. Et donc les Bielles, que j'ai présentées, j'ai pas tellement encore présenté ce groupe-là, ils sont issus de cette bourgeoisie-là. ils apparaissent à la fin du XIe siècle, de façon assez énigmatique. On a un seul document, mais ils sont déjà bien installés. On ne sait pas vraiment d'où est-ce qu'ils viennent, on ne sait pas vraiment comment ils sont arrivés là, mais ils vont à partir de là vraiment constituer un fort pouvoir autour de leur famille, de leur lignée. Et l'ambition de cette conférence est de justement comprendre ce que nous apprend l'exemple des Bielles sur la vie et le pouvoir des élites à Bayonne au Moyen-Âge sur cette période. Donc d'abord, je vais revenir un petit peu sur la commune, parce qu'en soi, ils sont des acteurs de la communauté de laquelle ils sont membres. Déjà, pour présenter ce qu'est une commune, le pacte, c'est une sorte de pacte communal ou une sorte d'association, de confédération des habitants de la ville qui sont unis ensemble dans l'intérêt commun. Ils œuvrent ensemble en tant que bourgeois, en tant que personnes qui ont du pouvoir. Ils œuvrent pour leurs intérêts. Pour intégrer ces cercles, il faut donc être bourgeois, c'est-à-dire faire partie de cette communauté. Pour en faire partie, il faut habiter impérativement à Bayonne depuis un an et un jour. À partir de quoi on fait partie de cette communauté de bourgeois qui sont aussi appelés les Vézins voisins. Donc ça leur confère des droits et donc aussi des devoirs. Ils sont tenus d'assister effectivement quand ils sont nommés dans les institutions que je vais présenter juste après. S'ils sont nommés, ils sont tenus d'y participer, sous peine de quoi ils auront des amendes à payer qui viennent aussi renflouer les caisses de la mairie. Donc on a d'abord... Il y a plusieurs institutions donc, que le membre peut intégrer. On a d'abord le conseil donc, des 100 pères, qui est au milieu. Donc, les 100 pères, c'est un conseil qui s'est formé à partir de 1243 et qui donne aux Bayonnais l'occasion de former un conseil donc, autour de 100 pères. En vérité, ils sont 75, mais qui vont gouverner et défendre les intérêts du peuple. Donc leur pouvoir est grand, ils se réunissent assez fréquemment, et c'est eux qui sont en charge notamment d'élire chaque année, parce que les élections municipales ne sont pas tous les 4 ans, c'est tous les ans à Bayonne à cette époque-là. Donc je vous laisse imaginer le bazar, mais ce sont elles qui vraiment ont ce rôle-là. Elles choisissent ensemble 3 candidats potentiels chaque année, desquels après le roi choisira qui sera le nouveau maire. Au-delà des 100 pairs, on a aussi donc les jurats. Les jurats, ils œuvrent avec le maire, c'est un conseil de 12 personnes qui, justement, vient... ils collaborent avec le maire dans le quotidien de la cité, et chaque semaine, encore une fois, ils se réunissent pour travailler ensemble. Et les prud'hommes, c'est un conseil, encore une fois, de 12. Ils travaillent avec le prévôt de la ville. Le prévôt, c'est un administrateur, il est nommé par le roi, et il est chargé de faire appliquer les peines de justice, de les faire appliquer. Donc, c'est ces 3 conseils-là vraiment qui constituent l'essentiel de ce qu'est l'administration, enfin ce qu'est la commune au Moyen-Âge à Bayonne. Mais vous avez bien compris qu'en soi, c'est quand même un petit milieu où tout le monde se connaît. Et par exemple, les jurats, je ne l'ai pas précisé jusque-là, les jurats, leur mode ils ne sont pas vraiment élus, c'est-à-dire que les 12 membres, chaque année, ils choisissent eux-mêmes qui va les remplacer à la suite, une fois qu'ils seront partis. Ce qui en soi est, va faciliter aussi des contrats et des alliances entre les familles pour se maintenir au pouvoir. Donc j'ai présenté qui sont ces élites parce qu'on n'a pas tellement eu l'occasion de les voir, si je veux bien marcher mon diaporama. Donc typologie sociale des élites, essayer de comprendre qui sont ces élites. Donc là, je vous ai affiché sur le diaporama la chronologie des maires que j'ai réalisée pour une période allant de 1251 à 1426. Je vous ai mis en évidence les principales familles, sinon ça ferait trop de couleurs, ça serait terrible pour les yeux. Essayer de représenter les différentes familles qui sont au pouvoir. On voit quand même qu'il y a quand même une concentration des pouvoirs par certaines familles. Donc les Bielles sont en jaune. Vous voyez quand même que... C'est sans équivoque qu'il n'y a personne qui arrive à leur niveau. On a les Dardières, la famille des Dardières, qui également ils sont assez proches des Bielles, qui constituent 8% de l'ensemble de cette chronologie. On a la famille d'Aribert, qui est une famille qui a apporté un évêque. On a la famille de Luc, dont on a encore une rue qui porte leur nom. C'était une famille qui était pareil, famille un peu comme les Bielles, une famille assez influente et qui est issue du négoce bayonnais. Et leur maison était implantée justement dans cette rue. Donc elle a gardé ses... Pour les temples des Bielles, je trouve ça marrant qu'on ait gardé ce nom-là. On a les lesbiennes, etc. Donc beaucoup de familles en soi qui arrivent justement à garder, à se maintenir dans ces strates. Mais on a aussi d'autres familles qui apparaissent pas forcément ici, comme les Sauvagnacs, qui sont les grands rivaux des Biels, qui interviennent plusieurs fois sur toute la période. D'autres familles, mais en général, elles sont quand même bien implantées dans la mairie. Donc ces élites-là, on a vu tout à l'heure que souvent elles viennent justement des régions environnantes, et c'est intéressant de justement d'arriver à toutes les reconnaître. Donc en soi, pour l'illustrer, donc ce graphique il a été réalisé sur une période donc de 155 ans, et on voit donc que les membres de la famille de Biel occupent 42% des mandats, ce qui est énorme vraiment. Je le redisais, la famille d'Ardir, qui est celle qui occupe le plus de place après les Biel, c'est seulement 8%. Aucun n'a réussi à faire autant, à concentrer autant de pouvoir que la famille de Biel. Et donc, ils vont aussi donc œuvrer dans leur intérêt. Donc, ça, c'est ce que je vous ai expliqué. On voit qu'ils œuvrent justement, on a dit, c'est une concentration d'un même en soi de personnes qui ont les mêmes intérêts. Ils sont négociants tous, ils travaillent dans le commerce. Et on voit très vite que dans cette élite, ils œuvrent pour leurs intérêts communs. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'un établissement qui a été fait en 1296 par Pascal de Soule, la mairie de Pascal de Biel, justement, grand-mère lui aussi, et qui fait voter en fait un dex, c'est-à-dire un territoire qui est sous la propriété vraiment de la commune, et qui impose en fait certaines règles pour les commerçants qui viendraient à Bayonne, parce qu'effectivement il y a beaucoup de commerces et beaucoup d'échanges. Donc je lis en partie. L'an de notre Seigneur 1296, pendant la mairie de Pascal de Biel, a été fait l'établissement par le maire et les sans-pères d'un commun accord, ce qui souligne encore une fois qu'il y avait des intérêts, puis crié dans toute la ville, selon lequel nul homme ou nulle femme étrangère ou privée ne peut acheter dorénavant dans le dex de la ville de Bayonne, ni dans la ville, pour chargement ou pour revendre, donc il cite les matières, sous peine de perdre ces matières. Et le dex de la ville sont depuis Borée, donc tout en haut, depuis Borée, Boucau de la Pinte, donc l'embouchure, d'une part depuis Fortgave, Saint-Jean-de-Biouthe, donc Mouguère, Ustaritz, Saint-Jean-de-Luz, et d'autre part, et depuis Saint-Martin-de-Seignanx. Donc un territoire quand même assez vaste pour assurer un monopole sur les marchandises qui réceptionnent à Bayonne. C'est un exemple en ça, mais ça permet déjà de comprendre un peu quels sont les intérêts dans cette élite. Et donc là-dessus, les Biels, parce que j'en ai pas tellement parlé, je vais essayer donc de vous les présenter. Je vous ai mis en soi, là, les différentes phases que j'ai réussi à isoler de la famille de Biel et de leur influence dans la ville. Là, j'aurais même pu rajouter une cinquième petite flèche avant, puisqu'ils arrivent dès 1199, mais il y a un temps où on ne les voit pas tellement en mairie. Là, j'ai vraiment focalisé l'attention sur l'influence des Biels en mairie, avec un temps vraiment d'émergence où on les voit quand même s'impliquer durablement dans les sièges, chez les prud'hommes par exemple, etc., dans le chevinage et dans les jurats. Un âge d'or vraiment à partir de 1295 jusqu'à 1329. Grand ardeur, on les voit partout, on y reviendra. À une période de déclin, dans une période qui est marquée par les tensions en soi dans la ville de Bayonne, mais aussi dans une période qui est marquée par des conflits avec la France, puis la fin du monopole sur la fin de la période. Donc en soi, les Biel, c'est une famille, on ignore vraiment d'où est-ce qu'ils viennent véritablement. Encore une fois, on a vu que souvent le patronyme aide vraiment à retrouver d'où est-ce qu'ils viennent. Mais ici, dans n'importe quelle langue des documents, que ce soit en latin, en français ou en gascon, Viel, Villa, Bila, ça veut dire ville. Donc ça pourrait être n'importe où, ville. Donc ça pourrait être vraiment n'importe où. Mais j'ai isolé trois hypothèses probables. La première étant Biel en Béarn. Il y a Biel qui est dans les Pyrénées, dans le Béarn, dans le sud des Pyrénées, Biel, ça pourrait être une piste. Il y a aussi un quartier de Dax qui s'appelle Villa. Et on a aussi dans ce même quartier, enfin pas loin de ce quartier, un quartier dit de Sauvagnac, merci beaucoup, qui là aussi est une autre famille importante et rivale en plus des Biel. Peut-être se connaissait-il avant d'arriver à Bayonne, on l'ignore. Et la dernière potentielle hypothèse, c'est qu'il pourrait venir aussi de Viel-Saint-Giron, donc dans les Landes, vers le lac de Léon. Je ne sais pas si vous arrivez à le situer, j'aurais pu mettre une carte. Ils auraient pu venir de là. Il y avait une sauveté, c'est près de l'océan, pourquoi pas. mais on n'a encore une fois aucune documentation qui permet vraiment de l'attester. Mais c'est un groupe qui entre dès 1199, donc relativement tôt dans la période, et qui se fait remarquer déjà avec un document très très fort qui leur accorde des droits très importants, j'y reviendrai, autour donc du commerce déjà, donc ce qui montre qu'ils étaient déjà dans le négoce, bien impliqués, avant la période dans laquelle on les rencontre. Donc j'ai eu ce problème-là quand j'ai commencé mon master, d'arriver à reconnaître ces bielles, parce qu'il y a beaucoup de noms, et en plus, la difficulté aussi, c'est que dans les documents, donc selon qui l'écrit, donc que ce soit à Bayonne, mais que ce soit aussi dans les sources de la chancellerie anglaise, tout dépend, en fonction de qui écrit, la graphie du nom change. Donc des fois, on se trouve avec des graphies qu'on n'a jamais vues. Villario, j'ai mis du temps à apercevoir que ça pouvait être Biel. Et ça a été très compliqué pendant longtemps d'isoler toutes ces graphies et de m'assurer avec certitude que c'était, qu'on parlait bien du même groupe. Donc pour ce faire, j'ai isolé à partir des prénoms, parce que les prénoms, encore une fois, j'ai pas eu le temps de l'aborder, mais même dans les listes, ils ont tous les mêmes prénoms. C'est tout, à chaque fois, c'est les mêmes prénoms, ils se reproduisent entre eux, donc c'est normal. Et là encore, dans les prénoms que j'ai, de tous les noms qui apparaissent donc à l'écran, Biel, Ville, Biol, Biel, Bielard, Ville, Viel, qui encore une fois changent d'un document à l'autre et aussi d'une langue à l'autre, c'est toujours les mêmes prénoms qui reviennent, avec Guillaume Arnaud, qui est donc un grand membre, donc qui le prénom est très largement repris. Vital, c'est le premier membre connu de la documentation, mais qui franchement a pas mal posé de pierres pour la famille, après pour le lignage, pour le lancer. C'est lui qui obtient des droits exceptionnels en termes de pêche et de privilèges commerciaux. Donc encore une fois, une reconnaissance à ce prénom-là. Ramon Durand, Pey, l'équivalent donc de Pierre. Pey Arnaud, Laurence, et après des prénoms composés où on rajoute effectivement ce prénom-là, Guillaume, etc. Donc vraiment, je pourrais en parler très longtemps, ça a été très difficile de les reconnaître, mais aussi très passionnant d'aller chercher est-ce que c'est eux, est-ce que c'est pas eux, et d'arriver à les retrouver là-dedans. Donc il faut aussi comprendre, donc pour encore une fois, comprendre comment se matérialise l'élite à Bayonne, d'essayer de comprendre les caractéristiques qui font de l'élite qu'elle est élite. Et la première des choses qu'on a à ce sujet, c'est donc le patrimoine, les biens et le privilège. Alors, je ne vais pas tellement parler ici des maisons, des biens vraiment patrimoniaux des biels, parce qu'ils sont très peu mentionnés. Même dans les élites locales, elles sont assez peu mentionnées. On en trouve des traces quelquefois, mais on n'aura jamais accès à tout. Et ça reste très difficile de les localiser. Par contre, on a beaucoup de données sur les biens et privilèges qui étaient vraiment liés avec leur exercice, leur négoce, pour le coup, qui sont assez intéressants. Bon, quand même, pour en parler, à Bayonne, la plupart des élites, elles ont donc des maisons, des territoires, des maisons, des terrains, énormément de terrains, et souvent même, elles ont des fours, des moulins, qui sont dans la région environnante, dans les régions environnantes, et donc beaucoup, une vraie empreinte dans le territoire bayonnais. Donc pour, encore une fois, revenir sur notre premier biel, Vital de Biel, donc pour le coup, le premier document que l'on a sur cette famille, c'est pas un document en soi si anodin que ça. Il s'agit d'un papier qui confirme à une date inconnue, enfin à une date précédente, on ne sait pas vraiment à quelle date, qu'il était usufruitier d'une sécherie sur les îles de Guernesey, que l'on voit tout là-haut, donc très loin de Bayonne. C'était étonnant, la première fois qu'on voit ça. Et donc, appelé sécherie, mais aussi épercurie, ce sont des endroits où c'est une technique de séchage de poissons, de congres et de merlus, que l'on fait sécher comme ça à l'air libre, pour éviter la prolifération de microbes. Et ces stations de sécherie de congres, c'est le roi qui donne, qui contrôle justement à qui il les donne. Et très fréquemment, en fait, les bielles ne sont pas les seules. Il y a beaucoup d'élites de Bayonne qui vont avoir accès à ces sécheries, qui sont quand même très loin. Mais parce que justement, ça se situe sur un axe de route vers l'Angleterre, vers les cinq ports, ou encore les Flandres, vers lesquels les négociants se dirigent. Donc en soi, ça leur permet d'avoir tout à fait. Et c'est très bénéfique. C'est un grand. Comment dire, je me perds dans mes mots. Ça leur permet en soi d'avoir un contrôle sur les flux, tout simplement. Donc c'est à 900 km, quand même, pour le rappel, de Bayonne. Ils ont aussi, par exemple, le Vital de Biel, c'est pas le premier ni le dernier à avoir ces privilèges-là, c'est vraiment le premier. Aussitôt, on n'en a pas. En 199, c'est le premier à avoir ce type de droit aussitôt dans la période. Ils vont avoir après, par exemple, des comptoirs commerciaux à La Rochelle aussi, comme d'autres familles après eux. Enfin, beaucoup de privilèges en soi liés donc à ce commerce-là. Il y a un autre droit dont ils vont bénéficier assez tôt dans la période. Et justement, c'est ce même Vital qui en bénéficie. Décidément, il était bien tombé. Il bénéficie en 199 d'un droit sur les baleines qui sont pêchées à Biarritz. À Biarritz, c'est là qu'on pêche véritablement donc la baleine. C'est des baleines qui sont énormes. Ça s'appelle les Balaena biscayensis. Elles sont vraiment énormes, ces baleines. Ce qui veut dire que, il faut imaginer que quand on pêche une baleine, on récupère absolument tout. Toutes les denrées jusqu'aux os, tout est récupéré. L'huile est vendue très cher. Et en fait, on donne à ce moment-là, à ce Vital de Biel, un droit pour récupérer de l'argent sur les deux premières baleines qui sont pêchées à Biarritz. Ce qui est énorme, puisqu'il n'a même pas à se déplacer. Il récupère directement l'argent. Et en général, c'est un droit que se réserve le seigneur. Parce que c'est quand même important. Enfin, parce qu'il faut quand même passer vite, dans la pêche fluviale, ici, donc vraiment beaucoup plus près, pour le coup, on a aussi des propriétés qui leur sont accordées et des privilèges importants. Donc on a notamment les nasses. Les nasses, ce sont des pêcheries, pour le coup. Je vous ai laissé un figuré qui explique en quoi ça consiste. L'idée, c'est que c'est un piège à poissons. Donc, on plante des grands bâtons de bois dans le lit de la dour et les poissons vont s'enfermer dedans. Et donc, on a un accès donc, à beaucoup de poissons qui passent par là. Et donc, en plus, ça correspond à donc, la nasse qui est octroyée, elle est octroyée en face de Hurt, qui correspond à la limite en fait, de salaison de la dour. Donc, qui est en soi stratégique, d'autant plus que, encore une fois, c'est par cet endroit-là, par ce biais-là qu'on amène la marchandise et que naviguent la plupart des marchandises qui viennent de l'Itterland et aussi du commerce en général. Donc c'est assez, en soi, c'est assez important comme privilège qu'on leur accorde là. Donc il y a aussi une rente qui est perçue en plus par ce Pernod de Biel qui obtient en 1308 le droit de construire cette nasse. Et donc ces points de pêche sont très très stratégiques et il y a d'autres familles qui vont en bénéficier. On a par exemple les Sauvagnac que j'ai un petit peu évoqué précédemment, qui en ont aussi à Ustaritz, et également une à Guiche qui va justement motiver des rivalités entre eux, puisqu'effectivement ils sont très proches et ils vont se gêner. Je passe ensuite dans l'autre caractéristique qui sont l'implication dans le tissu politique de la ville. En soi, il y a une émergence donc assez rapide de cette famille dès lors qu'on les voit en 199. Très vite, on les voit beaucoup apparaître au sommet de la hiérarchie municipale. Ils sont, par exemple, fréquemment répétés parmi les trois candidats à nommer pour maire chaque année. Donc, ce qui suggère qu'ils acquièrent quand même en soi une influence et une reconnaissance par les cercles décisionnels de la ville qui les reconnaissent. Donc cette ascension laisse penser qu'il y avait, à une date antérieure, encore une fois, une construction de réseaux d'influence importante et une implication assez forte de la part des Biels dans les réseaux locaux. En ce sens, on les voit apparaître comme des experts et des figures de crédit à diverses reprises. Donc par exemple, on a cette expertise maritime, ils vivent de leur commerce, c'est-à-dire qu'ils sont habitués, ils travaillent avec beaucoup de corps de métier, de tonneliers, enfin vous voyez tous ces corps de métier-là qui travaillent sur les bateaux, ils sont habitués, ils ne restent pas qu'à Bayonne au chaud, ils prennent les bateaux, ils vont dans les cinq ports, ils font beaucoup de routes aussi en mer, ce qui implique beaucoup de violence en mer, parce que la mer est par nature violente, que ce soit par la nature en soi de la mer qui fait qu'on peut avoir des naufrages fréquemment, hein, ça arrive malheureusement, et aussi par la nature aussi violente des hommes qui peuvent se retrouver, et il peut y avoir aussi encore une fois des litiges. Et les Biels en ce sens sont aussi bien victimes qu'agresseurs, j'en connais quelques passages là aussi, et justement on va des fois recueillir justement cette expertise quand on a besoin d'eux et les solliciter à diverses reprises pour intervenir dans des traités de paix qui se font avec les pays transfrontaliers. Imaginez, Saint-Sébastien à l'époque est une ville qui, comme Bayonne, vit aussi de son commerce Et donc, les marchands qui se croisent, des fois, il y a des rivalités qui se mènent. Donc, on a par exemple plusieurs documents, dont un où on nomme un biel en procureur de la ville, c'est-à-dire il est gardien de la forme, il défend les intérêts de sa ville. Et donc, encore une fois, il apparaît comme une figure de confiance et clé dans la résolution de ce conflit. Il y en a un autre qui intervient, donc un premier en 1293, dans une trêve entre Bayonne et la Castille, avec un autre membre de la famille d'Ardir, ou encore en 1354, dans une autre paix, pour Saint-Sébastien, justement, avec les deux Luc. Donc cette pratique souligne qu'il y a une importance qui est accordée vraiment à ces négociations, mais aussi le statut qu'on accorde à ces représentants, à ces familles, justement, bourgeoises et influentes bayonnettes, qui sont crédibles et sûres, puisqu'effectivement, elles connaissent, c'est leur domaine. En 1328, là aussi, dans un énième traité de paix, Laurent de Biel est nommé juge convenable, je cite, pour écouter et juger les parties, donc qui reconnaît en soi en lui une autorité à juger équitablement les deux parties, malgré sa position de maire, puisqu'il est maire à ce moment-là, et une influence donc qui est durable sur toute la période dans leur expertise des affaires maritimes. Donc on a parlé du barrage de la nasse de Hurte tout à l'heure, et là aussi on attend une expertise des Biel un peu plus tard dans la période. En 1341, le seigneur de Guiche, le frère du seigneur de Guiche, construit un barrage illégal, complètement illégal, qui entrave la circulation de la Dour, et donc la navigation vers Bayonne. Vous imaginez bien que ça les contrarie à Bayonne. Et donc le seigneur de Guiche intercepte tous les navires qui passent, leur confisque les marchandises et en profite pour demander des rançons, tant qu'à faire, qui donc vont en soi perturber l'approvisionnement de la ville. Arnaud de Biel et d'autres bayonnais sont alors nommés pour servir les intérêts de la ville, et lui-même étant propriétaire d'une nasse, il sait encore une fois de quoi il parle. Et donc voilà. On a encore une fois une autre caractéristique qui est la relation avec le roi, et pour le coup, les Biel ont très très bien compris que bien s'entendre avec le roi duc, c'est une clé pour se maintenir au pouvoir. On a en premier exemple l'année 1294 qui marque le début de la guerre de Guyenne. Je passe les détails, mais les relations franco-anglaises se détériorent très rapidement. Il y a eu des pillages à La Rochelle par des bayonnais qui n'étaient pas les Biel, je vais m'en suite assurer, et qui fournit un casus belli idéal en soi aux Français pour attaquer et commencer donc une France, n'importe quoi, pour commencer donc une guerre. Et la saisine du duché est prononcée, puisqu'en soi, donc, le duché appartient en soi à la France, mais c'est le roi-duc d'Angleterre donc, qui en est l'usufruitier, mais ça appartient en soi à la France. Enfin, donc, on saisit le duché. Et les Français donc, rentrent à Bordeaux, et à l'été 94, ils rentrent à Bayonne. Donc, des maisons sont détruites, des partisans anglais sont enfermés, emprisonnés. Vous voyez, c'est quand même un climat marquant. Et on a bien compris, les élites bayonnaises, elles ont bien compris quand même, elles sont assez reconnaissantes pour le coup du roi d'Angleterre de tous les privilèges qui leur sont accordés. Et ils ont bien compris que ça sera peut-être pas pareil si on redevient français. Et cette année-là, Pascal de Biel, qui est donc un bourgeois assez discret jusque-là, il monte, il va réunir des corps de métier bayonnais et il va monter une milice pour rendre la cité à l'Angleterre. Rien que ça. Et il y arrive, donc à la période de Noël, plus ou moins, avec donc les forgerons et les charpentiers notamment, ils vont réussir à reprendre la ville. Et le roi en est très reconnaissant. Donc je vous l'ai mis là, à son cher valet Pascal de Ville, maire de Bayonne. Toutefois, avant de trouver votre lignage et vous, bon et loyaux et naturels. Donc, encore une fois, il les remercie le plus chèrement que nous pouvons et nous tenons à être tenus en grand bienfait. Car nous savons bien que par la diligence et la peine que vous et votre lignage avez mis, nous avez rendu la ville de Bayonne. Et nous voulons Dieu que nous puissions retourner cet honneur et les autres bontés que vous et votre lignage nous avez fait. Car nous en avons la bonne volonté et le pouvoir à l'aide de notre Seigneur. Donc voilà, un document qui va être très très important, et on voit que le roi est très reconnaissant, et il peut, en soi. Donc la même année, jusque-là, donc très discret dans l'élite, les Biel émergent vraiment à partir de cette période-là, et la reconnaissance du roi ne cesse de s'illustrer. La même année, Pascal est nommé maire, mais aussi châtelain, parce qu'il y a un château donc, en face de la cathédrale, en fait. Et donc ses fils seront, encore une fois, renouvelés toute cette fidélité. On est en soi content de pouvoir compter sur le roi, mais la réciproque est vraie aussi. Donc déjà, Pascal et certains de ses, d'autres membres de l'élite aussi avaient pu aussi illustrer dans d'autres circonstances. J'aurais pas le temps de détailler vraiment, mais il y avait un moment où Édouard Ier avait défendu l'honneur de personnalités publiques et il avait demandé donc des garants et des cautions. Et donc, à Bayonne, on a, sur les 83 otages qui sont présentés justement dans ce contrat avec le roi d'Angleterre, il y a 15 Bayonnais qui vont se porter otages pour le roi, au nom du roi. Donc ils vont, notamment il y a les Biel et les Sebagnac qui vont aller se porter le garant et donc partir, vraiment ils vont être emprisonnés du coup, et donc manifester de la plus belle façon possible leur loyauté, et ainsi donc ça va payer. Les récompenses sont grandement jalousées, il y a des octrois fonciers, des rentes en conséquence. Et c'est à ce moment-là que Guillaume Arnaud de Sobagnac se voit investi donc, de l'ensemble des biens qui ont été retirés à un traître. Donc en soi, ça encourage en plus les autres à faire de même. Et les bourgeois assument aussi pendant toute la période un rôle de créancier royal, un rôle déterminant donc, dans leur ascension. En soi, quand le roi a besoin d'argent, c'est auprès de ses élites bourgeoises, qui sait qu'elles ont de la fortune, il va les solliciter. Donc les premiers emprunts, en soi... En 1242, il les fait auprès de bourgeois pro-anglais, un père Arnaud de Biel, Jouan d'Ardire, et il les rembourse avec les revenus de la charge de prévôté. Il y a toujours un contrat implicite, ils sont toujours remboursés, mais en soi, ils sont toujours gagnants aussi de leur fidélité. Donc voilà, pour vous resituer encore une fois, à quel point les Biel en soi ont profité aussi de ça, parce que, mine de rien, effectivement, ce sont les Saint-Pères qui nomment les trois candidats, mais c'est toujours le roi qui a le dernier mot sur qui sera élu maire. Et on voit bien, à partir donc, de 1295, que, justement, ils vont réussir, en soi, à se maintenir durablement. Donc, ce qui nous amène à la dernière partie de cette conférence sur les interactions qu'il y a entre ces élites, à savoir, est-ce qu'elles s'entendent bien, comment elles interagissent ensemble. Et la première question, c'est comment ils s'imposent au sein de la maison commune. La maison commune, donc, c'est la mairie. Elle a disparu, cette maison commune, à cause d'un incendie au XVIIe siècle. Elle était située en face du cloître, au niveau de l'ancien palais de justice. Donc elle a complètement disparu, mais elle était là. Et donc on va essayer d'étudier comment ils s'imposent. Donc on a d'abord les stratégies pour se maintenir en mairie. Je ne sais pas si vous verrez bien. L'idée, c'est de voir à quel point donc, les biens figurés en jaune quand même reviennent. Et j'ai essayé de faire des liens pour essayer de resituer lequel des Biel arrive à se refourguer dans la mairie et à quelle période. On voit qu'ils arrivent quand même à s'organiser pour rester au pouvoir. Donc, entre 1295 et 1329, sur une période de 24 ans, s'opère une concentration assez remarquable de pouvoir entre les mains des Biel. Donc, durant cette période, il y a seulement 7 mandats qui sont détenus par d'autres candidats. C'est quand même très peu. Et donc par des membres extérieurs. En s'attendant donc sur les noms, on s'aperçoit qu'il y a quand même en soi un schéma d'alternance qui est prédéterminé au sein du groupe, une sorte de rotation entre les membres, mais aussi les familles alliées, puisqu'effectivement, les Dardire sont des grands copains des Biel. Donc là aussi, une fois que, bon, on a quand même fait le tour, on place un Dardire, enfin, il y a quand même quelque chose à en tirer. Et donc on aperçoit quand même une grande alternance systématique entre Pascal de Biel, Pellegrin de Biel, Guillaume Arnaud, P. Arnaud, Raymond Johan et Bernard, qui justement vont tourner pendant cette période. Ils placent leurs membres de façon annuelle ou biannuelle et alternent entre les années, mais en soi cette restriction elle est pensée, puisque à mesure que le temps passe, les élites s'aperçoivent quand même qu'on peut arriver à établir un quasi-monopole, et les Biel à ces époques ils ont déjà été pas mal présents sur la mairie, et de plus en plus, les élites vont œuvrer pour mettre en place des restrictions quant à la mairie, pour pas se représenter trop de fois, pour limiter les influences des familles, etc. Donc, on voit qu'ils jouent justement sur ces restrictions, donc on peut pas se représenter après deux mandats, ok, donc on va justement placer quelqu'un d'autre, un cousin, que sais-je, et on voit qu'ils arrivent quand même, malgré ces restrictions, à se maintenir au pouvoir. Donc voilà, pas ponctuellement des membres comme les Dardire sont nommés, mais ce sont des alliés. Donc l'accomplissement est tel qu'il devient en soi un modèle pour les autres familles de l'élite. Et certaines vont tenter plus tard d'assurer le même coup, comme les Luc, les Puyan et les SB, mais aucun n'arrive à asseoir autant de pouvoir que les Biel à ce moment. Mais les Biels, ils se contentent pas, je l'ai pas mis encore là, et ils se contentent pas que d'occuper les, justement, les places en mairie. Il s'agit en soi, donc il faut arriver à se maintenir avec une présence constante dans les liens qui sont à Bayonne, donc dans les différentes institutions bayonnaises, quelles qu'elles soient, pour conserver une influence sans être forcément à la tête de la mairie. Et pour ça, ils placent des pions partout. Donc dans les patronages, ils entretiennent des relations privilégiées avec les institutions religieuses, ainsi comme les Biels, les familles de Meis, Lesbé, Mente ou encore d'Aribert. Ils sont très liés avec les couvents environnants. Par exemple, beaucoup des filles de ces familles-là sont placées dans les couvents, etc. Donc on retrouve, par exemple, sur un document, on a 12 moniales, la moitié, elles appartiennent aux membres des grandes familles de l'élite. Bon, en soi, on repart encore une fois des schémas. Et encore une fois, dans un contexte de jalousie entre le chapitre de la cathédrale et les couvents, les élites, elles aussi, j'ai pas le temps de développer, mais elles interviennent aussi pour défendre tel chapitre ou au contraire un tel couvent, et agissent en soi, encore une fois, comme des bons intermédiaires. Et donc, pour une famille de marchands comme les Biels, se hisser dans le clergé régulier et séculier, ça s'avère aussi être un bon moyen d'ascension sociale et d'accroissement du prestige familial aussi, puisque c'est crucial, et ça révèle aussi leur pouvoir. L'accès au clergé nécessite par ailleurs un niveau d'éducation considérable, donc qui est souvent hors de portée des familles qui n'ont pas les moyens. On voit encore, on va aller voir à diverses périodes, on compte parmi les Biels donc plusieurs abbesses qui sont donc dans les couvents environnants, beaucoup de chanoines, et au moins aussi deux évêques, dont un qui était donc évêque, donc Bernard III qui était évêque de Bayonne, et Arnaud qui était à Dax de 1275 à 1305. Mais à Bayonne, comme ailleurs aussi, il existe des factions. Donc il y a l'une qui est dite populaire et l'autre dite aristocratique. Donc ce sont deux factions qui sont portées en soi par des ambitions. Donc, c'est-à-dire que la faction populaire est plus fidèle au roi d'Angleterre que la faction aristocratique. Et on voit qu'ils sont constamment en litige. Les Biels, tout le rang de la conférence, on l'a vu, ils ont su habilement profiter de la fidélité au roi. Donc, sans surprise, ce sont eux qui sont à la tête de cette faction populaire, avec les Dardières, qui sont aussi, comme eux, très fidèles à l'Angleterre. Et les factions aristocratiques, elles sont constituées des propriétaires terriens, qui ont une attitude plus méfiante envers le pouvoir anglais, et qui, en soi, soucieuses de conserver ses privilèges. Donc, on a donc tout le long de la période donc cette lutte d'influence entre les factions, et quand on s'intéresse donc à tous les maires qui ont été maires justement pendant la période, il y a des fois où il y a des maires qui dont le nom ne nous dit rien du tout, et très souvent quand il y a un étranger qui est placé à la tête de la ville, ça veut dire qu'il y avait des grosses tensions juste avant et que le roi s'est dit on va changer parce que là c'est n'importe quoi, ils vont encore s'entretuer. Et donc, il va mettre à la tête de la ville un étranger qui souvent parle gascon. Il leur dit « qui est-ce des Vastralingois qui parle votre langue ?» C'est comme ça qu'il le justifie. Mais très souvent, c'est révélateur de ces tensions, justement, dans l'élite. Par exemple, on a justement Paissant de Jacquesous qui est nommé à la mairie suite à une énième tuerie dans l'élite, ou encore Louis Béguin de Bordeaux, qui indique encore une fois qu'il n'est pas d'ici, ou encore Bertrand de Pau-d'Ansac. Donc ces confiscations, elles révèlent que la fréquence aussi de ces violences, et surtout des tentatives que le roi essaye d'empêcher ces luttes qui sont très très fréquentes dans la bourgeoisie bayonnaise. Il va bannir les coupables en général, parce qu'en soi, il a quand même besoin de leur soutien, donc il essaie de ne pas les fâcher non plus, de ne pas se fâcher avec ses bourgeois, et il va mettre en place des règles très strictes à plusieurs reprises qui imposent généralement aussi bien à Bayonne qu'à Bordeaux. Il va leur interdire toute conjuration, interdire tout pacte entre les familles, de se liguer contre les autres, bon, ce qui ne suffit pas, sans surprise, mais il essaye. Et voilà, les guerres de clans sont très rudes à Bayonne. On tente aussi d'interdire, donc même à Bayonne, les élites, elles sont conscientes de ces luttes fratricides, donc elles tentent elles-mêmes d'interdire ces, ces luttes en promulguant des établissements divers. On interdit par exemple de cacher des bannis ou des meurtriers sous peine de lourdes amendes, pour vraiment s'assurer de briser les solidarités qui fragilisent en soi l'ordre. Ou on va aussi, par exemple, promulguer l'interdiction des ports d'armes en ville, pour éviter tout conflit. Mais malgré ces tentatives, il y a quand même de la violence, et les Bielles, on en a beaucoup d'exemples, vraiment beaucoup d'exemples. Donc malgré ces tentatives, sur toute la période, ça n'empêche pas qu'il y ait des conflits. Donc outre les accusations de trahison qui sont fréquentes et qui ne sont pas étonnantes, que l'on voit fleurir en soi de tous côtés de l'élite, on a donc beaucoup de violences. Donc la première, elle est, que j'ai notée, elle est mentionnée en 1289, avec le meurtre de la famille de Bielle, donc P. de Bielle, qui est assassiné en ville, dans la rue, par justement des opposants. Et en 1293, plus tard, on a l'inverse qui se produit, avec un document qui confirme la culpabilité d'un certain donc Raymond Durand de Bielle et de ses complices dans l'assassinat de deux frères de la faction rivale. Les Lalanne, deux frères donc, qui ont été assassinés dans des conditions particulières. Ils ont été assassinés dans la cathédrale de Bayonne, qui est un lieu en soi inapproprié, enfin, on ne s'y attendait pas comme ça. Et malgré donc la gravité et le lien étroit avec le roi, enfin, le roi va accorder une protection royale à l'épouse, à la veuve, donc, enfin, si, à l'épouse du meurtrier, qui révèle en fait qu'il y avait toujours un danger, malgré l'intervention du roi et qu'on a banni le coupable, mais il reste encore des tensions, donc on va assurer sa sécurité. Et on a un second meurtre, encore une fois dans la cathédrale de Bayonne, par un autre Raymond Johan de Bielle, en 1316. On n'a aucune attestation, même aucun moyen de savoir s'il s'agit du même, ou si c'était simplement des cousins, puisque Raymond Johan est très usité dans le groupe. Mais celui-ci, il est de nature exceptionnelle, pour le coup. Le document détaille le meurtre perpétré donc par les Bielles, mais pas seulement, ils sont alliés de 41 familles qui viennent avec eux pour tuer 8 personnes, enfin oui, qui viennent tuer donc 8 personnes. Donc les tensions sont en soi manifestes dans la ville. Et voilà, c'est très... moi, je ne m'attendais pas du tout. Ces meurtres dans la cathédrale, on ne la regarde plus pareil après quand on rentre. Donc si la victoire du parti bayonnais, donc du parti populaire, elle est manifeste sur la Bielle, parce qu'on voit que les Bielles arrivent largement à se maintenir, leur victoire, elle n'est pas forcément approuvée et par tous, et ça suscite encore une fois des tensions. L'élection, donc on a dit, de ces individus localement inconnus, souvent ça révèle tout ça. Et donc on a en soi un exemple des tensions et de ces violences aussi qui peuvent se mettre en place quand justement Pessin de Jatsou est nommé à la mairie. Donc en effet, il arrive juste après les tueries justement de la cathédrale, et il est conduit donc par la minorité du corps de ville. Donc on place ce Pessin de Jatsou pour calmer les tensions. Et quand il arrive à la mairie, il va essayer justement de se distinguer du maire précédent, qui était sans surprise un Bielle. Et il y a une enquête qui est ouverte à partir de là par Guillaume Arnaud de Soubagnac, donc concurrent des Bielles, à propos de cette nasse dont on a parlé à Urte, parce que celle-ci causerait préjudice à la communauté locale. Et on affirme en plus qu'elle a été construite de manière frauduleuse, donc on l'accuse. Et donc Pessin de Jatsou, qui est nouvellement maire, décide de démarquer son triomphe sur le maire sortant, et son mépris aussi, en supprimant tout simplement les nasses, à la fois sur la Nive et sur la Dour, sans prendre en compte que son ami aussi, donc Soubagnac, va perdre du coup ses nasses. Bon, passons. Et donc ces nasses vont être, donc on va les interdire. Malgré tout, le Bielle donc décide quand même il fait le choix d'ignorer ses alertes, et jusqu'à ce qu'une troupe détruise et brûle plusieurs maisons lui appartenant, histoire de calmer le jeu. Donc vous voyez quand même que il y a des violences vraiment intraclaniques très violentes, mais aussi au sein de la mairie, on observe quand même de façon un peu plus cachée, mais il y a toujours ces violences qui se répètent en soi au sein de l'élite. Donc l'élite est très déchirée. Mais elle est très intéressante à étudier pour le coup, ce qui nous amène sur la fin. Donc l'accomplissement des Bielles dans la mairie, il est vraiment très très important. Et il est en soi un modèle pour les élites, les autres familles patriciennes qui cherchent à l'imiter. Qu'ils soient d'accord avec lui ou non, ils ont tous cherché à l'imiter, quels qu'en soient les moyens. Certaines familles donc, vont tenter de s'imposer aussi. On a vu les Luc, Poyan, les Sbé. Mais aucun n'arrive à surpasser l'exploit des Biel. Ils ont été, pour moi, très passionnants à étudier. Et encore une fois, pour répondre à la question du début, à la fin de la guerre de Cent Ans, quand, quand Bayonne et le duché d'Aquitaine repassent sous autorité française, les élites, on a dit du Parti populaire, d'un coup, elles sont mal vues, malvenues. Et peu à peu, les Biel, comme d'autres familles donc de ce parti, vont perdre en influence, mais de façon assez rapide. Ils vont perdre en influence et je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a en soi aucune trace mémorielle de cette famille qui a pourtant marqué très fortement l'héritage et la ville de Bayonne. Je vous remercie.
Vous venez de suivre Une famille bayonnaise au Moyen-Âge, les Biel, une conférence présentée par Cécile Lobo, spécialiste d'histoire médiévale. Elle était enregistrée le 12 mars 2026 au Musée basque de l'histoire de Bayonne.